Chapitre 23. Personne n'a envie d'être un monstre. Le faux Everett n'arrêtait pas de me le répéter. Ce n'était pas de sa faute s'il était comme ça. Il n'avait pas demandé à avoir des fantasmes sexuels à chaque instant du jour et de la nuit, à bander devant les images de filles aux gros seins ligotés et bâillonnés, à être excité par le bruit des chaînes qui traînent par terre. Un jour, il avait lu un article sur un voyeur qui avait été découvert dans la fosse des toilettes sèches d'un parc naturel. Le type avait raconté une histoire comme quoi il avait perdu son alliance et qu'il avait dû descendre la récupérer. Mais la police avait découvert que ce n'était pas la première fois qu'il se faisait prendre dans des toilettes mobiles, des sanisettes, toute cette merde. Le faux Everett rigolait en disant le mot « merde », tout content de lui. Quoi qu'il en soit, un expert avait déclaré que le type était scatophile. En fait, ça l'excitait d'attendre les deux pieds dans le caca et de regarder des inconnus déféquer. « Je n'invente rien », disait le faux Everett en levant les deux mains du volant comme pour appuyer sa démonstration. « Quel individu sain d'esprit déciderait d'être excité par la merde ?» continuait-il. C'était une maladie, évidemment. Une obsession dont le type se serait sans doute bien passé. Tu imagines une vie à fureter comme un voleur autour des toilettes publiques, couvert de matière fétide ? Eh bien, si lui m'avait kidnappé, violé, frappé, ce n'était pas non plus de sa faute. Le faux Everett disait ça avec le plus grand sérieux. D'aussi loin que remontaient ses souvenirs, il avait toujours été obsédé par le sexe. Même petit garçon, avant de savoir ce que c'était, il regardait les seins des femmes avec l'envie de les toucher. Ceux de sa mère, de sa grand-mère, d'inconnus, peu importe. Il voulait ce truc-là. Il fallait qu'il l'ait. Ça lui avait simplement pris un peu de temps avant de comprendre de quoi il retournait. Et ensuite, il avait essayé d'être normal. Disait-il d'une voix plaintive, d'avoir une petite amie, de se contenter de la position du missionnaire, de se persuader que trois fois par nuit, ça pouvait lui suffire. Il s'était même marié. Ça allait sûrement marcher. Mais le sexe plan-plan ne l'intéressait pas. Il ne voulait pas d'une femme qui accomplissait son devoir conjugal, froide comme un glaçon sous lui. Il était un homme, il avait des besoins. Et des obsessions. Des fantasmes profondément ancrés et des pensées dont il n'arrivait pas à se défaire, même si personne d'autre ne le comprenait. Il avait battu sa première femme. Il lui avait tellement démoli le portrait qu'il avait dû appeler les secours. Les médecins des urgences l'avaient balancé et la police l'avait arrêté alors que sa femme, toujours inconsciente, ne pouvait pas leur expliquer que c'était entièrement de sa faute à elle. Une bonne épouse ne devrait jamais dire non. Il avait dû aller en prison, ce qui avait été en soi une expérience très instructive. Beaucoup de sexe derrière les barreaux. Ne le lancez pas sur le sujet. Mais ce genre de relation n'était pas son truc. Clairement pas un endroit pour un homme qui avait ses besoins. En prison, il avait dû suivre une thérapie de groupe. Gestion de la colère. Contrôle des pulsions. Il avait même appris l'existence de l'addiction sexuelle. C'était la première fois qu'il entendait dire qu'il y avait quelque chose d'anormal à avoir tellement envie de sexe en permanence. Quelque chose de maladif. Il avait décidé qu'à sa sortie, il essayerait d'arrêter. Comme un alcoolique qui deviendrait sobre du jour au lendemain. Plus de sexe, plus d'appétit dévorant, plus de crise de colère, plus de séjour en tôle. Une bonne affaire. Sauf qu'on peut vivre sans alcool, mais aucun homme ne peut vivre sans sexe. C'est comme ça qu'il s'était retrouvé à agresser une gamine de 14 ans. Pas de sa faute. Il n'avait pas demandé à naître comme ça. Personne n'a envie d'être un monstre. Sa maman était assez sympa. Son père, ouais, c'est vrai, c'était un gros connard, mais il n'était jamais là. Non, le faux Everett avait été élevé par sa mère, qui cumulait deux boulots et qui fumait cigarette sur cigarette dans l'intervalle. Quand il était tout petit, il faisait la navette entre la maison de sa mère et celle de sa grand-mère. Plus tard, vers 6 ou 7 ans, il restait tout seul à la maison. Il regardait des émissions de télé où des femmes ultra minces portaient des t-shirts moulants sur leurs gros seins. Ensuite, il avait découvert l'endroit où son père planquait ses magazines de cul. Après ça, Il attendait avec impatience que sa mère parte au travail pour passer des heures et des heures à les feuilleter en regardant les photos. Quand il avait 13 ans, m'a-t-il raconté pendant une traversée de l'Alabama, il voulait être acteur porno. Le meilleur boulot du monde, pensait-il. Mais quand il avait fêté ses 16 ans et que son torse imberbe était toujours aussi chétif, son visage couvert d'acné et ses cheveux gras, même un taré fini comme lui voyait bien que les acteurs porno avaient un certain physique et que lui ne l'aurait jamais. Il aimait toujours le porno. Et maintenant, grâce au miracle d'Internet, il pouvait l'emporter partout avec lui. Rien de tout cela ne me surprenait. Je savais déjà qu'à la seconde où il s'arrêtait pour la nuit, le faux Everett mettait ses vidéos préférées dans le lecteur DVD, ouvrait ma prison et en avant la musique. Peu importait que je sois fatiguée, que j'ai faim ou que j'ai mal partout. Peu importait d'ailleurs aussi que lui-même soit fatigué, affamé ou qu'il ait mal partout. Un homme a des besoins. Celui-là était son principal. Personne n'a envie d'être un monstre. On peut apprendre à ne rien ressentir. À s'envoler. Parfois, je m'imaginais dans la prairie, en train de jouer avec les renards. Mais je n'aimais pas ça. Ces images étaient ternies pour moi. Alors je visualisais un ciel bleu vif. Un ciel couleur merle bleu, comme on disait en Nouvelle-Angleterre, quand le ciel d'hiver prenait une teinte plus profonde et plus riche que le bleu délavé et surexposé de l'été. Le jour, j'étais le public parfait. Un auditoire d'une personne pour un vrai moulin à paroles. Et la nuit, je devenais un objet inanimé que ce même connard narcissique déplaçait, posait, positionnait comme ci ou comme ça. Qu'est-ce que ça pouvait bien me faire? Quand enfin il avait fini, il m'offrait à manger. Ou une taffe de cigarette. Ou une gorgée de sa bière. Nous restions en silence dans le camion qui puait le sexe et la transpiration. Et pendant une minute ou deux, ou trois, il avait presque l'air heureux. « T'es jolie », m'a-t-il dit un jour. C'est pour ça qu'il fallait que je te kidnappe. Je t'ai vue en train de danser, avec tes longs cheveux qui ondulaient juste au-dessus de ton cul. Ça attire le regard des hommes, hein? Sauf qu'évidemment, pour une fille comme toi, un type comme moi n'existe même pas. Il a dit ça sur le ton de l'évidence. Je ne l'ai pas contredit. Alors j'ai fait ça à ma manière. Et regarde le résultat. On fait le tour du pays comme deux imbéciles heureux. Bon, qu'est-ce que tu en dis? Burger ou pizza pour le dîner? Il me nourrissait, ensuite encore du sexe, et il me remettait dans ma caisse. Sauf que, quand les jours sont devenus des semaines, il lui arrivait de s'endormir. Et alors je restais là, allongée sur le sac de couchage moelleux, les mains encore liées, une cheville enchaînée à un gros anneau métallique fixé au plancher, mais tout de même, ces nuits-là, je ne dormais pas. Je m'obligeais à garder les yeux ouverts. Je m'imprégnais du toucher glissant du nylon qui me changeait de la dureté de ma couche en bois. Je profitais de la douceur de la nuit, juste de l'autre côté des petites fenêtres de la cabine. Je l'écoutais ronfler en me disant « Si seulement je pouvais serrer son cou entre mes mains, ou trouver la force de l'étouffer avec un oreiller ou de lui planter un stylo dans l'œil. » Mais je n'ai jamais rien fait de tel. Jamais mis aucun de mes fantasmes à exécution. Parfois, quand il dormait, il avait presque l'air humain. Juste un type comme un autre, heureux d'avoir survécu à une journée de plus. Je me demandais si sa mère ou sa grand-mère étaient encore en vie, s'il leur manquait, ou si elles savaient à présent qui il était réellement et qu'elles regrettaient leurs erreurs. Je ne pensais plus à ma propre mère, ni à mon frère, ni à la beauté des renards. Je passais ma vie à voler dans un ciel merle bleu. Et il y avait les bons jours, ceux où j'avais le droit de m'asseoir sur le siège passager, mes mains liées, dissimulées, et de regarder le paysage défiler. Et les mauvais, ceux où quelque chose l'avait mis en rogne, où il buvait davantage, me frappait davantage, me maltraitait davantage. Mais la plupart des jours étaient des jours comme les autres. Le faux Everett parlait. J'écoutais. La route filait sous nos roues. Et si par exemple une chanson passait à la radio, je me surprenais à la fredonner et lui me surprenait en la fredonnant avec moi. Et nous chantions du Taylor Swift en chœur. J'ai appris qu'il aimait le Carol Burnett Show et les séries I Love Lucy et Bonanza, qu'il regardait avec sa grand-mère quand il était petit. Et de mon côté, je lui ai parlé du Saturday Night Live et de mon addiction à Grey's Anatomy. Le docteur Mamour, m'a-t-il dit, à mon grand étonnement. Plus tard, il est revenu avec un coffret des premières saisons et il m'a lancé un DVD. Ce soir-là, pendant qu'il me pilonnait à tout va, j'ai pensé aux hôpitaux de Seattle, où les médecins sont absurdement séduisants, et au fait qu'un jour, peut-être, un interne bien foutu me tiendrait la main quand mon corps martyrisé arriverait aux urgences. On m'aurait sauvé, je me serais évadée, j'aurais enfin tué le faux Everett, et ce serait ma récompense. Un docteur Mamour rien qu'à moi, qui panserait mes blessures et me protégerait pour toujours. Mais je ne rêvais pas tant que ça. Je ne faisais pas de projet. Je ne pensais pas à l'avenir ni à ce que j'allais devenir. Je volais surtout dans un ciel merle bleu, le corps enchaîné, mais l'esprit à mille lieues. Et Lindy ! Une nuit, il m'a réveillée en pleurant dans son sommeil. Lindy ! Lindy ! Lindy ! Il sanglotait comme un malheureux. Ses doigts grattaient le sac de couchage à côté de moi. « Non, non, non !» disait-il. « Oh, Lindy !» Est-ce que les monstres font des cauchemars? Est-ce qu'ils rêvent même? On aurait dit qu'il allait mourir, comme si tout son monde s'était effondré, comme si le faux Everett avait autrefois eu un cœur et qu'on était en train de le lui arracher. Je me suis retrouvée à lui frôler le dos du bout des doigts. J'ai senti ses muscles tendus, sa respiration saccadée. Un homme qui souffrait. Je lui ai encore caressé le dos, doucement, jusqu'à ce qu'il finisse par pousser un profond soupir. Il s'est détendu. Il dormait. Plus tard, quand il s'est réveillé et qu'il m'a déclaré une nouvelle fois qu'un homme avait des besoins, je n'ai pas été effarouchée. J'ai gardé les yeux ouverts et je l'ai regardé en me demandant qui était Lindy et ce qu'elle avait bien pu faire pour avoir autant d'ascendant sur lui. En me demandant quelles leçons je pourrais apprendre d'elle. Encore des jours, encore des nuits. Jusqu'à cet après-midi où il s'est arrêté dans un relais routier. Il est entré boire un café et sans y prendre garde, il m'a laissé assise à l'avant. Les mains liées, la cheville gauche enchaînée à un autre anneau de métal dans le sol, mais tout de même, à la vue de tous. Un véhicule de police est venu se garer à côté de moi. La portière s'est ouverte. Un homme de grande taille, en uniforme, est sorti. Il m'a vu, m'a salué d'un signe de tête en touchant le bord de son chapeau du bout des doigts, et moi, je suis restée là, les poings serrés sur les genoux. Je n'ai rien dit, je n'ai rien fait. Mon cœur s'est follement emballé dans ma poitrine, et un instant, un souvenir m'est revenu, comme un chatouillis au fond de la gorge. Ma mère. Je la revoyais parfaitement, les bras tendus vers moi, qui m'attendaient. Elle disait un nom, Molly. Mais ce n'était pas tout à fait ça, si. J'ai eu envie de lever les mains, de frapper à la fenêtre, de montrer mes poings liés. J'ai eu envie de crier, je m'appelle. J'ai eu envie de supplier qu'on me ramène chez moi. Le policier me regardait droit dans les yeux, moi les mains sur les genoux, je les regardais aussi. Et à ce moment-là, je me suis vue avec ses yeux. Une petite paumée maigre comme un clou, avec des vêtements bas de gamme, un regard morne et des cheveux coupés à la serpe. J'ai vu Molly, assise dans son camion, en train d'attendre que son mec violent vienne la retrouver. Et je ne me suis plus sentie comme un oiseau sur le point de sortir de sa cage, ni comme une jeune fille sur le point de rentrer chez elle. J'ai eu honte, comme la moquette marronnasse. J'avais en moi plein de nuances de merde. J'ai chassé l'image de ma mère de mon esprit. J'ai remplacé son visage par un ciel merle bleu. Et j'ai tourné les yeux vers l'avant. Le policier s'est éloigné. Le faux Everett est revenu. Il a vu la voiture de patrouille. Paniqué, il a ouvert la portière en toute hâte. Et là, il m'a vue, bien sagement assise, le regard droit devant. Il est monté. Il a bouclé sa ceinture. Et reprit la route. Aucun de nous n'a dit un mot. Ce soir-là, quand il a eu fini de faire ce qu'il voulait faire, il ne m'a pas remise dans la caisse. Il m'a laissée dehors. Nuit après nuit, jour après jour. Plus de caisses cercueils. Parce que Flora n'existait plus. C'était un fait entendu. J'ai écrit une nouvelle carte postale à ma mère. « Chère maman, je m'amuse comme une folle. Je fais le tour du pays avec l'homme de mes rêves.